droits. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi 31 mars dernier la résolution 2348 prorogeant le mandat de la mission onusienne en RDC. Ce nouveau mandat est concentré sur deux priorités stratégiques majeures, à savoir la protection des civils d'une part, ainsi que l'appui à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral d'autre part. Quelle lecture faire de cette nouvelle résolution de l'ONU sur la RDC? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois M. Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Honorable Jean-Bertrand Ewanga, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes député national et président du parti politique Front Citoyen pour la République, également secrétaire exécutif de la plateforme Alternance pour la République et membre du Rassemblement. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Maître Achille Kabongo. Il est président de l'Institut Congolais d'études et d'analyse stratégique dénommé Institut Philippe Dioya. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Vous le savez, la résolution 2348, votée à l'unanimité vendredi dernier par le Conseil de sécurité, proroge le mandat de la MONUSCO jusqu'au 31 mars 2018. L'appui à la protection des civils et la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre du processus électoral sont les deux grandes priorités assignées à la MONUSCO dans cette résolution. En quoi consiste donc cette protection des civils à la lumière de cette résolution? Élément de réponse avec vous, Michel Kifindangoy.
Avant toute analyse, la protection des civils doit être la priorité lorsqu'il s'agit de décider de l'usage des capacités, réaffirme dans la résolution 2348 le Conseil de sécurité. Il autorise donc la MONUSCO, en vue d'atteindre cet objectif, à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter de son mandat et prie le secrétaire général de l'informer immédiatement en cas de défaillance de la force et de la police de la MONUSCO à cet égard. Parlant de la protection des civils, le paragraphe 34 de cette résolution énumère notamment les tâches prioritaires ci-après: assurer une protection efficace des civils, notamment en dissuadant et en empêchant toutes les milices locales de commettre des violations contre la population, neutraliser les groupes armés au moyen de la brigade d'intervention à l'appui des autorités de la RDC et travailler de concert avec elles afin d'arrêter et de traduire en justice les présumés coupables des génocides, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le Conseil de sécurité exhorte par ailleurs l'ONU de tenir compte des enseignements à retenir pour procéder à des réformes au sein de la MONUSCO afin qu'elle soit mieux à même d'exécuter son mandat concernant en particulier la protection des civils.
Voilà, merci Michel Kifindangoy. Julien Paluku, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, comment avez-vous reçu la résolution 2348 prorogeant le mandat de la MONUSCO?
Oui, merci. Je voudrais d'abord commencer par saluer l'honorable Bertrand Wanga parce que je pense que c'est la première fois que nous débattons avec lui. Alors, la résolution telle qu'elle a été édictée par le Conseil de sécurité, nous l'avons reçue comme nous recevons toutes les autres résolutions parce que vous savez, depuis que la résolution 2098 a été votée en 2013, nous en sommes à la 8e résolution. Cela montre la préoccupation de toutes les nations du monde sur ce qui se passe en RDC, particulièrement dans la province Nord Kivu, ou je vais dire à l'Est, où se passe une cruauté depuis une vingtaine d'années. Je l'ai accueilli avec satisfaction, parce que tout simplement, je vis avec les Nations Unies, avec la MONUSCO, et je suis témoin du travail qui est réalisé sur le terrain, et c'est pourquoi j'ai salué effectivement cette préoccupation permanente du Conseil de sécurité sur ce qui se passe. Parce que le Conseil de sécurité ne s'est pas seulement préoccupé de ce qui se passe à l'Est ou en RDC. Et il a également noté quand même quelques avancées dans la résolution qui ont été faites par le gouvernement, notamment la lutte contre les violences sexuelles, le recrutement d'enfants qui a cessé dans les forces armées. Et ce que j'ai noté dans la résolution, c'est qu'au regard de la persistance de l'insécurité et des violations des droits de l'homme dans cette partie de la République, le Conseil a rendu co-auteur ou co-responsable, je vais dire, la mission des Nations Unies. Parce qu'à un moment donné, lorsque j'ai lu un paragraphe, il a été scrupuleusement dit que les forces des Nations Unies devraient être formées, y compris la brigade d'intervention qui devrait être équipée, qu'elle accuse beaucoup de problèmes, même sur le plan linguistique, pour devoir communiquer avec les populations locales. Donc j'ai senti que les membres du Conseil de sécurité ont rendu aux responsables la mission pour n'avoir pas mis fin à ce qui se passe ici avec les 8 résolutions qui viennent d'être votées par lui. Et donc c'est cela ma première lecture que j'ai pu faire lorsque je suis entré en contact avec la résolution.
Alors, en revenant sur le dernier aspect que vous évoquez, le Conseil de sécurité qui rend la MONUSCO co-auteur ou co-responsable n'avoir pas mis fin à la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, monsieur le gouverneur, quelle évaluation peut-on faire de ces 8 résolutions pour ne pas aller très loin de la dernière résolution, la 2277, qui venait de passer, par rapport à son application?
Moi, je pense que toutes les résolutions des Nations Unies souffrent de quelque chose, c'est notamment l'absence de la coercition. C'est-à-dire, les résolutions n'ont pas une forme coercitive. C'est pas comme une loi qui prévoit des sanctions pour dire, pour celui qui a commis telle infraction, il doit être condamné pour 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Le malheur des résolutions des Nations Unies, c'est qu'elles traduisent les états d'esprit des nations pour souligner une compassion envers les autres nations qui sont en problème. Et donc, tout de suite, l'évaluation que je peux faire de toutes les 8 résolutions, c'est qu'il y a eu des aspects positifs que nous pouvons soulever, notamment par exemple la présence de la brigade d'intervention en RDC, mais il y a aussi quelque chose que j'ai toujours noté, c'est que ça fait 17 ans que la MONUSCO est en RDC, mais un aspect important que le Conseil de sécurité n'a jamais soulevé, c'est la formation des forces armées de la République démocratique du Congo. Parce qu'on peut bel et bien laisser 17 000 hommes, 20 000 hommes, 30 000 hommes, mais tant que le Conseil ne va pas s'atteler, par exemple, à dire « nous votons une résolution pour former, pour aider le gouvernement congolais à former ses forces armées, notamment autant de brigades par an. Si, par exemple, depuis la résolution de 2013, on s'était assigné une mission de former 5 000 éléments de FARDC par an. Nous sommes à 4 ans, nous serions à 20 000 éléments formés et équipés. Et à ce moment-là, on allait dire à la MONUSCO, eh bien, vous venez de nous former 20 000 hommes, vous pouvez déjà partir parce que vous avez renforcé nos capacités. » Mais à chaque fois qu'on va noter des résolutions qui constatent, qui soulignent, qui déclarent, ce qui n'est pas d'effet substantiel qu'on va laisser sur le sol de la RDC, eh bien, on va continuer à croire qu'il n'y a pas effectivement de résultats palpable auquel on est arrivé.
Alors, monsieur le gouverneur, quand vous faites allusion à l'aspect non coercitif de ces résolutions, voulez-vous dire que ce ne sont que des vœux pieux?
Bon, ce sont des mots qui sont trop durs, mais on semble croire qu'on pourrait chercher un autre mot qui soit beaucoup plus courtois pour traduire effectivement ce que vous venez de dire, parce que ça fait autant d'années que les résolutions sont en train d'être votées, mais la crise persiste dans les pays. Les groupes armés contre lesquels et le gouvernement et la mission des Nations Unies devraient lutter continuent à exister. Parce que lorsque la résolution dit qu'il faut protéger les civils, on protège les civils contre quoi? C'est contre les groupes armés locaux et étrangers, contre toute forme de menace qui vient dans les pays. Maintenant, est-ce que pendant 5, 10, 15 ans, devra-t-on seulement voter des résolutions pour dire vous devez continuer à protéger les civils au lieu de résoudre les problèmes en amont, s'attaquer à ceux qui créent le manque de cette protection-là, pour qu'en s'attaquant à cette cause-là, on sécurise en aval la population sans qu'il soit indiqué à une mission de venir se grouper autour d'un camp de déplacés ou un tour de camp de réfugiés pour protéger les populations. Parce que pour moi, aller protéger les populations regroupées dans un camp n'est pas une solution. La solution, c'est de mettre fin à ce qui amène les gens à aller se regrouper dans les camps de déplacés.
Merci.
Donc, voilà ma lecture.
Merci, monsieur le gouverneur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Honorable Jean-Bertrand Iwanga, député national et président du parti politique Front Citoyen pour la République, secrétaire exécutif de la plateforme Alternance pour la République et membre du Rassemblement, comment vous avez reçu cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU?
Bon, je voudrais d'abord commencer par saluer les gouverneurs du Nord Kivu. Et la résolution, nous l'avons reçue à bras ouverts. Surtout qu'elle insiste sur la protection des civils, parce que l'État a failli à sa mission. Vous avez suivi le gouverneur de province, déclaré que voilà, le gouvernement, il ne l'a pas dit ainsi, mais il est dit en d'autres termes que le gouvernement est incapable d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est comme ça que j'ai compris ses propos. Et puis ensuite, la résolution a surtout insisté sur la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un cas de figure d'un pays qui a des institutions illégitimes et illégales, des alimentaires illégitimes et illégaux. C'est la majorité présidentielle qui nous a amenés dans cette triste aventure où toutes les institutions ont refusé d'organiser les élections. Et voilà, il y a un accord qui a été signé. Et voilà, ils se sont accaparés de l'accord à la dernière minute pour organiser ce qu'ils appellent aujourd'hui des consultations. Et cette résolution vient à point nommé pour fixer les esprits en disant, pour donner la légitimité aux institutions et aux animateurs, il faut la mise en place immédiate de l'accord, ce qui est une très bonne chose. Et puis, cette même résolution prévoit également le soutien du processus électoral. C'est-à-dire qu'il faudra que la CENI, qui fait déjà un très bon travail, puisse terminer et qu'on aille vite aux élections. Et cette résolution va jusqu'à aller à l'évaluation tous les 45 jours. Tous les 3 mois, on doit évaluer la situation. Et le 30 septembre, si rien ne change, ça veut dire que les Nations Unies prendront leurs responsabilités parce que cette résolution s'exécute en vertu du chapitre 7. Le chapitre 7, ça veut dire qu'à ce moment-là, le contraire de la souveraineté de notre pays ne dépendra plus de nous. Nous serons à quelque peu dans les cas de figure de la Libye et comme de l'Irak, je ne parle pas de la guerre, mais c'est-à-dire qu'à tout moment, le Conseil de sécurité peut prendre des décisions parce qu'à un certain moment, le politique a montré ses insuffisances.
Une forme de mise sous tutelle.
Une forme de mise sous tutelle. C'est pourquoi nous voulons qu'on évite cette triste aventure et la majorité qui s'entête pour foncer dans le vide croit qu'en répétant de nombreuses consultations pour désigner d'autres gouvernements de cette histoire que nous avons connue dans ce pays sous la Deuxième République, mais il faut faire gaffe parce que, à la dernière minute, nous risquons d'être surpris à la dernière minute par la volonté de grandes puissances des États qui considèrent qu'au Congo, les civils, vous voyez la situation qui se passe au Kasaï, l'État ne contrôle plus rien et ça risque d'être un danger non seulement contre le peuple congolais et même pour la communauté internationale.
Mais qu'est-ce que vous répondez au gouverneur Julien Paluku qui pense que le péché originel de toutes les résolutions des Nations Unies demeure dans le fait qu'elles ne sont pas coercitives?
Il a raison quelque part. Vous avez vu la situation que nous avons connue avec M23, il a fallu une brigade spéciale. C'est-à-dire que quelque part, il faut une volonté d'aller de l'avant. Bon, le gouverneur a parlé de l'armée qu'il faut former, mais il faut dire que la coopération internationale a dû former des brigades dans ce pays, et par notre mauvaise gestion, nous avons dispersé les militaires pour que les choses n'aillent pas dans le sens du commandement. Et aujourd'hui, des unités formées pour un tel commandement sont réparties sous d'autres forces. Mais c'est ça qui a amoindri. On se pose la question de savoir si vraiment nous voulons gérer notre pays avec des forces combattantes qu'il faut, ou bien chaque fois quand nous serons en difficulté, parce qu'il y a des voisins qui ont toujours secouru à la dernière minute, ils vont venir. Et cette situation nous met en insécurité totale. Et nous disons que Il faut un sursaut. Il faut qu'il y ait des institutions républicaines légitimes pour qu'on arrive à rétablir véritablement un état des droits dans notre pays.
L'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre, a déclaré que la MONUSCO disposait désormais d'un mandat adapté à la situation de la RDC. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Mais justement, parce que je vous ai dit que le mandat actuel s'exécute en vertu du chapitre 7. Ça veut dire que maintenant, ils pourront envoyer des éléments qui peuvent neutraliser même certaines forces qui pourront chercher à déstabiliser la population, les institutions de la République. C'est possible. Nous sommes maintenant dans une période très dangereuse.
Est-ce que ce n'est pas une lecture biaisée de cette résolution, honorable Ewang?
Non, ce n'est pas une lecture biaisée. Le gouverneur a dit qu'il y a plus de 8 résolutions, c'est-à-dire quelque part, la communauté internationale est fatiguée. Et qu'il faut passer à un niveau supérieur pour que directement on agisse pour régler les cas du Congo. Et ce qu'il faut craindre, vous avez vu ce qui s'est passé au Soudan. Cette communauté internationale est arrivée à scinder le pays. Il faut craindre cela. Et ça peut être une décision qui peut indisposer la communauté nationale.
Je suis sûr qu'on n'arrivera pas, pas à l'abri.
Pardon?
La RDC n'est pas
mais
là,
si ce qui, décision. Si ceux qui nous gèrent s'entêtent dans leur schéma,
merci.
On peut arriver à tomber dans un tel schéma et c'est malheureux.
Merci, honorable maître Achille Kabongo, bonsoir.
Bonsoir, Alain Hiron.
Vous êtes président de l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique dénommé Institut Philippe Bioya.
Professeur Philippe Bioya.
Voilà, comment vous avez reçu cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU?
Durant presque tous les week-ends, nous avons essayé de suivre ce ballet diplomatique qui se passait au niveau du concert des nations, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ce qui nous a frappé, c'est le changement radical décidé par Washington dans la ligne politique des Nations Unies. Interrogée devant la presse, Mme Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique près l'Organisation des Nations Unies, nous a étonnés. Elle a dit... L'heure est venue du changement radical de la ligne politique de Washington au sein des Nations Unies et les premiers objectifs de cette modification s'articulent en 3 axes en ce qui concerne principalement les opérations de maintien de la paix. Premier axe, faire des économies dans les opérations de maintien de la paix, supprimer les gaspillages dans les opérations de maintien de la paix et bannir la corruption dans les opérations de maintien de la paix. Et elle a confirmé la réduction des effectifs de la MONUSCO qui se verront amputés de 500 casques bleus. Et si vous suivez les déclarations de Mme Nikki Haley, c'est dans des déclarations très radicales. Elle dit par exemple, nous avons commencé à reformer le maintien de la paix et à réduire l'effectif des troupes en République démocratique du Congo. Nous voulons être sûrs d'envoyer des troupes pour avoir des élections crédibles et assurer la protection des populations civiles. Nous voulons que les pays contributeurs bénéficient d'un système transparent. Nous voulons éliminer la corruption et les abus sexuels. C'est tout un changement de culture que nous allons déclencher au sein même des Nations Unies. La négociation avec la République démocratique du Congo a commencé avec mon avènement comme ambassadrice aux Nations Unies et nous allons continuer.
N'est-ce pas un chapelet de bonnes intentions, des vœux pieux, comme je le demandais tout à l'heure au gouverneur Paluku?
Non, ce n'est pas un chapelet de bonnes intentions, des vœux pieux. Écoutez, la politique de Washington a radicalement changé. Lorsqu'elle dit par exemple que je suis en contact, en lien étroit avec le secrétaire général et aussi avec les États membres pour parvenir à réaliser des dépenses intelligentes dans les opérations de maintien de la paix à travers le monde. Nous voulons cesser d'ajouter des troupes au maintien de la paix sans raison. Nous voulons être plus intelligents dans les résolutions des problèmes au lieu d'être plus nombreux.
Alors, est-ce que les États-Unis voudraient amener une nouvelle impulsion en RDC?
Tout à fait. C'est
dans
le changement
sens.
Radical de cette politique-là. C'est-à-dire, les autres administrations américaines ont en quelque sorte laissé faire. Il y a un revirement 180 degrés. Monsieur Jean-Bertrand Erwanga vient de vous le dire. Les autorités politiques de la République démocratique du Congo doivent faire absolument très attention. Nous avons essayé de réfléchir, car lors du renouvellement du mandat, du nouveau mandat ici de la MONUSCO, en date du 31 décembre, le Conseil de sécurité a complètement recadré le mandat de la MONUSCO pour le concentrer, Alain Hiron, uniquement sur la protection des civils et la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Pour cela, le Conseil de sécurité a particulièrement recommandé aux troupes de la MONUSCO d'être très mobiles. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, le budget qu'on donne à la MONUSCO maintenant sera investi dans la mobilité des troupes.
Mais
je vais terminer. Pour opérer quasiment sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, notamment par dévers des troupes plus spécialisées, vous allez voir que la réduction des effectifs, on mettra l'accent dans la réduction des effectifs sur les troupes peu efficaces.
Mais
à condition,
maître Achille,
ils insistent.
Maître Achille Kabongo, puisque vous parlez de la protection des civils, mais la résolution 2277 qui venait de passer faisait également allusion à cette protection des populations. S'il fallait la côté, vous donnerez combien sur 10?
Il y a toujours eu un petit laisser-aller dans l'application des résolutions des Nations Unies. Ce n'est pas la faute des Nations Unies elles-mêmes. C'est aussi la faute des autorités congolaises qui ne sont pas toujours prêtes à prêter main forte aux mesures de mise en œuvre et aux mesures d'encadrement.
La cote.
Lorsque la cote, je ne sais pas si Alain Hiroum directement on peut parler en termes de cote. Parce que lorsqu'il s'agit, Kinshasa, je vous rappelle, a toujours plaidé en faveur de la réduction des effectifs. Mais lorsque Kinshasa opère sur terrain avec nos propres troupes, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a toujours un débordement, violation des droits de l'homme, il y a toujours des excès. Et nous comptons sur cette même MONUSCO pour nous faire des enquêtes internationales et pour pouvoir recadrer les choses. Vous comprenez? Alors, ils insistent particulièrement pour dire ceci, que la décision de remplacer des contingents efficaces doit être mise en œuvre par qui? Par le secrétaire général des Nations Unies, à qui la résolution a demandé de faire une mise en revue de la MONUSCO, ça veut dire de passer au peigne fin toutes les opérations de la MONUSCO jusqu'au 30 septembre 2017 pour élaborer une force et une stratégie de sortie des crises. Mais à condition, Alain Hiroum, que l'accord du 31 décembre 2016 soit appliqué.
Merci.
C'est la seule condition qu'on exige.
Merci maître, je reviens à vous. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Je suis à Bukavu au sud Kivu. La majorité présidentielle qui ne respecte pas la constitution, je me demande comment elle peut respecter la résolution de l'ONU et surtout que celle-ci n'a plus un statut juridique international obligatoire. Mais comme le fait que les 8 accords de la Saint-Sylvestre est en voie d'être violé, pas seulement même qui a donné une cote de 90%.
Voilà, la majorité présidentielle, dit-il, qui ne respecte pas la constitution, comment pourra-t-elle respecter la résolution de l'ONU, monsieur le gouverneur?
Oui, la résolution de l'ONU ne doit pas être respectée que par la majorité, elle doit être respectée par l'ensemble du peuple congolais, l'ensemble des acteurs qui sont en face, notamment la majorité présidentielle, l'opposition politique, la société civile et nous tous peuples. Je crois que lorsque l'auditeur a soulevé sa question, il veut savoir si réellement cette résolution sera mise en œuvre, parce que la résolution, comme vous l'avez dit, elle soulève des priorités, et notamment la protection des civils et l'appui à l'accord cadre, à l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais pour moi, je pense que cette résolution, lorsqu'elle parle de l'appui à l'accord, soulève quand même quelques trois interrogations. Parce que lorsqu'on parle de l'accord, moi personnellement, je ne vois pas les postes de premier ministre, de ministre. Moi, je vois les élections. Or, il n'y a pas d'élection s'il n'y a pas trois éléments conjugués. Le premier élément, ce sont les électeurs. Le deuxième élément, c'est le calendrier électoral. Et le troisième élément, selon moi, c'est le budget. Alors, comment la résolution...
Allô, monsieur le gouverneur? Monsieur le gouverneur? Voilà, je pense que nous venons de perdre monsieur le gouverneur. Honorable Jean-Bertrand Ewanga, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kalemie.
Je m'appelle John Mekoko, j'appelle depuis Kalemie dans la province de Tanganyika. Je remercie le Conseil de sécurité de l'ONU pour le renouvellement des mandats de la MONUSCO. Et j'apprécie les 10 objectifs assignés. Ma question est celle-ci. Dans un pays où le gouvernement utilise les militaires en fait de maltraiter, de tuer, emprisonner en cas de revendication des droits des deux. Même la communauté internationale, les politiciens congolais, la CENCO et tous les Congolais savent que le président Kabila ne veut pas quitter le pouvoir, ne veut pas appliquer l'accord de la CENCO. Quels sont les moyens que la MONUSCO utiliserait pour réaliser ses objectifs?
Honorable Wanga.
Je vous félicite, monsieur, pour votre question. Mais c'est ça le grand problème. D'aucuns et tout le monde sait que M. Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Et toutes les tergiversations, c'est pour gagner le temps. Ça, c'est établi, ça, nous le savons. Et il a nommé Sami Badibanga. Il a atteint quel objectif? Il va nommer Tshibala. Il atteindra quel objectif? Et l'histoire va se répéter dans notre pays. Et ça nous montre que, à partir du moment, et c'est pourquoi le Rassemblement, lorsqu'il communique en disant si l'accord n'est pas respecté, n'est pas appliqué, nous n'allons plus reconnaître M. Kabila comme le chef de l'État, parce qu'il a terminé son mandat le 19 décembre. À ce moment-là, la Constitution a prévu l'article 64. Nous ne sommes pas une opposition armée, mais nous croyons à la force d'un peuple. Et nous allons dire, monsieur, parce que vous refusez d'appliquer l'accord, pliez bagage et partez. Vous me direz comment, mais cela se réalisait sous d'autres cieux. Et c'est pourquoi nous qui n'avons pas été là, était la volonté d'Étienne Tshisekedi, qui n'a pas voulu que du sang coule, c'est pourquoi nous sommes allés signer cet accord du 31 décembre. Et nous pensons qu'il n'a pas cette volonté, il se cache derrière sa majorité, aujourd'hui il devient un arbitre, alors qu'il a un parti pris, il a une majorité à lui, c'est ce qui justifie que nous avons refusé de répondre à son invitation.
Certains acteurs politiques, notamment de l'opposition, honorable Ewanga, interprètent cette résolution 2348 comme donnant à la MONUSCO le rôle des bons offices, et ils pensent que la MONUSCO devrait ici et maintenant prendre le relais de la CENCO.
Bon, non seulement ça, la résolution reconnaît l'implication et la puissance et l'intervention de la CENCO qui doit continuer son œuvre pour terminer l'arrangement particulier. Et la MONUSCO a également un rôle à jouer. Rassurez-vous qu'il n'y a pas de secret pour personne. Nous avons plus de 20 000 hommes d'armée étrangères dans notre pays. Nous ne pouvons plus taper sur la poitrine en disant que nous sommes toujours souverains. Et je crois que la MONUSCO a sa place. Et je vous ai dit, et je le répète, que ce mandat de la MONUSCO s'exécute en vertu du chapitre 7. C'est le dernier chapitre, le dernier recours. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, arrivé au 30 septembre, c'est-à-dire que si d'ici mois de septembre, il n'y a pas de signaux clairs qu'il y aura des élections, alors que nous savons que pour nos amis de la majorité, l'éventualité c'est 2018, fin 2018, à ce moment-là, ça deviendra un grand danger pour la République et pour la sous-région. La communauté internationale va prendre ses responsabilités. Et je crois que cette fois-ci, nous n'aurons pas à pleurer de grincement de dents, mais au moins, il y a une prise en charge. Ça peut être, par exemple, neutralise toutes les institutions et les Nations Unies organisent les élections. Cela s'est fait ailleurs. Et on trouve de nouveaux dirigeants et de nouvelles institutions. Cela est possible. Mais ça serait une très haute... C'est une honte pour notre pays. C'est pourquoi nous disons à M. Kabila, le sursaut de récupérer les dossiers entre les mains des évêques, ça ne doit pas être l'orgueil. Ça doit être une grande responsabilité pour trouver des solutions, parce que à un certain moment, et comme toujours, il apparaît pour nous comme un problème et pas une solution.
Dans son point 1, la résolution dit, en ce qui concerne le processus politique et électoral, et le Conseil de sécurité demande à toutes les parties prenantes en République démocratique du Congo, y compris au président Kabila, à la majorité présidentielle et à l'opposition, de mettre en œuvre sans délai l'accord du 31 décembre 2016 en toute bonne foi et dans son intégralité. Je reviens sur en toute bonne foi. Et là, le Conseil de sécurité rejoint pratiquement la CENCO qui a dénoncé le manque de bonne foi de la classe politique, pas majorité de... comme opposition.
Non, d'ailleurs. Pas de l'opposition, parce que nous sommes très, très respectueux des engagements. Il y a deux points qui gênent. L'accord est clair et ça ne demande pas un arrangement particulier. Le Premier ministre vient du rassemblement. Point très. Quel arrangement particulier vous voulez? Pour compliquer, nous propose d'avoir 8 noms, 10 noms, jusqu'à 3 noms. Ça n'existe pas dans l'accord. L'accord est clair. Le président du CENSA et le président du Conseil des sages, nous avons présenté quelqu'un. Non, il parle du consensus. Tout ceci, c'est la volonté de violer l'accord, comme ils ont tenté de violer la Constitution. Et vous avez même vu certains de l'opposition dits signataires se réclamer, vouloir prendre le poste du Conseil de suivi de l'accord.
Et donc, pour vous, le président Kabila fait partie du problème et non de la solution.
Oui, justement.
Voilà. Monsieur le gouverneur Julien Paloukou, est-ce que vous êtes de nouveau en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Avant que votre ligne ne se coupe, vous parliez de trois interrogations qui suscitaient cet accord en ce qui concerne la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous disiez que pour vous, ça impliquait des élections et qu'il fallait trois paramètres, les électeurs, un calendrier électoral. Et quel est le troisième paramètre, monsieur le gouverneur?
Le troisième, c'est le budget. Parce qu'à mon sens, j'estime qu'on peut bel et bien avoir un accord, on peut avoir la bonne foi, on peut être des acteurs engagés, mais tant qu'on n'aura pas les fichiers électoraux qui nous donnent la liste des gens qui doivent aller au vote, tant qu'on n'aura pas les calendriers qui fixent la périodicité des élections pour savoir à telle date que nous aurons tel type d'élection, tant qu'on n'aura pas le budget qui va donner les moyens pour savoir l'impression des bulletins se fera à telle usine, le transport se fera de cette manière, et à l'intérieur, voici comment seront déployées les urnes et les isoloirs. Tant qu'on n'aura pas répondu à ces trois paramètres-là, eh bien, on va ergoter autour des termes pour dire sensa, pour dire bonne foi, pour dire mauvaise foi. Eh bien, la population n'est pas souvent éclairée sur ces questions-là. On a toujours élagué les questions principales pour être sur les sensationnels. Alors que les questions principales pour moi, ce sont les trois paramètres ici pour lesquels on doit d'abord trouver des réponses pour que les gens soient fixés réellement sur quel est le nombre d'électeurs de notre pays, quel est le calendrier des élections et quel est le budget qu'il faut pour la mise en œuvre de tout ce qui sera arrêté. Monsieur, voilà ma lecture de cette situation.
Monsieur le gouverneur, vous avez suivi l'honorable Ewanga souligner que cette résolution est comme une épée de Damoclès sur la tête des autorités congolaises. Au cas où elle n'était pas appliquée, la RDC risquerait d'être mise sous tutelle par les Nations Unies.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que si aujourd'hui nous combattons la dictature dans les démocraties modernes, on ne doit pas accepter la dictature du Conseil de sécurité. Et je dois rappeler à l'honorable Bertrand Ewanga que la résolution commence par dire effectivement que le Conseil de sécurité réaffirme l'attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale et surtout à la non-ingérence dans les affaires intérieures de la République du Congo. Je crois que ça, c'est le premier paragraphe que, à chaque fois qu'une résolution est votée, est souvent rappelé pour que les acteurs ne pensent pas que lorsqu'un Conseil de sécurité vote des résolutions, c'est vraiment une épée suspendue, on va égorger, on va tuer, parce que tel n'a pas mis en œuvre telle résolution. Merci. Non, il n'en est pas ainsi. Merci. C'est une sorte d'accompagnement et d'appui au processus qui se passe chez nous, mais également une interpellation à tous les acteurs politiques, merci, majorité comme opposition, de trouver solution aux problèmes récurrents qui se passent dans le pays.
Merci, honorable Ewanga, je vous ai vu demander la parole avec insistance en une minute.
Qu'est-ce que vous voulez rassurer, monsieur le gouverneur, que les élections, M. Nang a fait déjà un très bon travail, même si nous sommes quelque peu méfiants de tout ce qui se passe dans l'enrôlement, mais le travail se fait. Le calendrier électoral, et puis il va le publier, nous le savons. Le budget, dans les contacts que nous avons eus avec la communauté internationale, je crois les dispositions pour soutenir le financement électoral sont là. Mais le problème, c'est la bonne foi, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui refuse d'aller aux élections et il tourne autour du pot.
Et donc vous balayez les trois préalables du gouverneur. Maître Chilka Bongo, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de la province du Haut-Ouélé.
Crispin Alibou, territoire de Dungu, province de Haut-Ouélé. Quel que soit le changement des résolutions des Nations Unies, je crois que la philosophie des actions de la MONUSCO reste la même. Cependant, peut-on espérer quoi de ces résolutions 23-48 pour la sécurisation des civils, par exemple, lorsque sa brigade est prompte en observation rapide au lieu d'intervention, ayant par contre mandat d'agir seul ou en appui au gouvernement congolais?
Maître Achille Kabou.
Oui, c'est une bonne question. Je pense que M. Crispin Alibou de Ouélé, territoire de Dungu, vous posez une très bonne question. Mais je pense que au niveau de l'administration Trump, l'on a remarqué que ces missions d'interposition étaient peu efficaces. Et la particularité de cette résolution, c'est quoi? C'est de corriger ces tares. Lorsque, par exemple, l'ambassadrice des États-Unis dit « nous voulons être plus intelligents dans la résolution des problèmes au lieu d'être plus nombreux ». Vous comprenez? Lorsque l'on demande, la résolution demande au secrétaire général des Nations Unies de faire une radioscopie de la MONUSCO avant le 30 septembre et de proposer des résolutions pour avoir une force de frappe et une sortie de crise. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change. Au lieu de juger cette fois-ci la MONUSCO en amont, voyons voir d'ici le 30 septembre. Et ils ont posé une condition. Que cette radioscopie ne peut être appliquée que s'il y a respect au départ de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et ils ont investi dans la mobilité des troupes. Cela veut dire quoi? Les effectifs, les 500 casques bleus qui vont partir, on va les choisir dans les effectifs peu efficaces. Maintenant, la MONUSCO sera dotée de troupes spécialisées capables de frapper n'importe où sur le territoire de la République. Et c'est bien précisé dans la résolution, lisez bien entre les lignes. Et nous disons que maintenant, nous allons prendre la MONUSCO au mot. Quelque chose a changé aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est plus une administration démocrate. C'est une administration républicaine qui dit elle-même que nous sommes en train d'assister à un changement de culture. Nous allons induire un changement de culture au sein des Nations Unies et nous allons provoquer un bouleversement dans les opérations de maintien de la paix à travers le monde. Raison pour laquelle je dis que la République démocratique du Congo a toujours été un champ d'expérience. Prenez avec la Cour pénale internationale. Les premiers condamnés à la Cour, c'est des Congolais. Nous risquons encore d'être un champ d'expérience avec cette résolution. Raison pour laquelle les autorités congolaises doivent être très délicat, très prudente, et vouloir respecter l'accord de la Saint-Sylvestre et voir l'application de ces accords. Sinon, il risque d'y avoir d'autres mesures. Moi, je ne vois pas pourquoi. Je salue monsieur le gouverneur Julien Paloukou avec qui je participe à ce débat. Mais je trouve que les inquiétudes de monsieur Jean-Bertrand et Wanga sont fondées. Il faut respecter l'accord de la Saint-Sylvestre parce que la résolution le souligne. Et la mission des Nations Unies pour la MONUSCO, pendant une année, c'est-à-dire ce renouvellement, a été recentré et recadré. Ce qui les préoccupe, c'est quoi? C'est la protection des populations civiles et la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. C'est clair, Alain Irung, n'allons pas discuter. Et ici, j'aimerais chuter en disant, monsieur le gouverneur parle des électeurs, il parle du calendrier électoral, il parle du budget. Mais avant d'en arriver là, il y a un point sur lequel tous les Congolais achoppent. La résolution, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est l'application de l'accord du 31. Et la résolution des Nations Unies insiste là-dessus. Si vous appliquez l'accord, il y a une solution de sortie des crises. Si vous ne l'appliquez pas, il y a d'autres mesures qui seront prises. Pourquoi ne pas envisager une sorte de mise sous tutelle à partir du moment que les Congolais ne s'entendent pas? À partir du moment que les choses sont claires, mais les Congolais sont en train de chercher des arbres qui se cachent derrière la forêt. C'est très dommageable.
Voilà, monsieur le gouverneur, Julien Paloukou, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, à laquelle faisait allusion maître Achille Kabongo, a aussi, avant le vote de cette résolution, déclaré que les États-Unis ne voulaient plus soutenir la MONUSCO, puisqu'en réalité, cette force onusienne assistait le régime de Kinshasa dans les tueries et violations des droits humains en cours en RDC. Comment analysez-vous cette position des Américains?
Oui, moi je pense que les Américains ont soif de voir la situation changer en République démocratique du Congo, comme nous tous, nous avons soif de voir cette situation changer. Lorsque les Américains notent qu'il est probable qu'ils puissent réduire l'appui aux forces de la MONUSCO, c'est comme une pression qu'on veut mettre sur la mission des Nations Unies pour dire, eh bien, Vous avez été déployé depuis 18 ans en République démocratique du Congo. Il nous faut quand même évaluer le travail que vous avez fait. Il y a bien entendu des avancées auxquelles vous êtes arrivés, mais il reste encore des problèmes qui persistent aux côtés du gouvernement congolais. Et qu'est-ce que vous avez fait pour réduire tout ce qu'il y a comme groupes armés, locaux, étrangers? Je pense que c'est un souci d'évaluer concrètement la mission des Nations Unies. Et c'est là où j'ai dit effectivement que la résolution du Conseil de sécurité pêche par omission. L'omission, c'est de n'avoir pas fait une évaluation objective sur la mission, les attributions et ce qu'on s'était assigné comme objectif à atteindre. Parce que pour moi, s'il m'était demandé de prodiguer des conseils ou d'être un expert occasionnel auprès du Conseil de sécurité, j'aurais quand même à dire pour qu'il y ait une efficacité sur ce qui se fait sur le terrain.
Merci, monsieur le gouverneur. Je reviens à vous, honorable Ewanga. Pour que la mission soit plus efficace, la MONUSCO, qu'est-ce qu'il faudrait lui ajouter en plus?
Et moi, je pense que j'ai dit que le mandat actuel s'exécute en vertu du chapitre 7. Ça dit beaucoup. Et mon frère de Gauss, maître, a parlé de la mobilité des troupes.
Et donc, le gouverneur a insisté sur le fait que la résolution reconnaît aussi la souveraineté aux États.
Mais même lorsqu'on a abordé le cas de la Libye, on a reconnu la souveraineté de la Libye aussi. C'est toujours ça. Mais c'est que lorsqu'ils insistent sur la mise en œuvre de l'accord, il ne faut pas prendre la responsabilité et le pouvoir de Kinshasa fait une fuite en avant. Et commence par les consultations qui n'ont pas été prévues. Une manière de disqualifier les évêques et de dire que nous sommes souverains, nous pouvons prendre nos responsabilités. Et mais c'est pour combien de temps? C'est ça. Et la même résolution vous dit, elle est vraiment menaçante, dit le 30 septembre. Ah, ça veut dire que si les choses n'évoluent pas bien, il y aura des dispositions qui seront prises. Et c'est-à-dire que même avant le 30 septembre, il y a des gens qui seront sanctionnés. Mais la mobilité des troupes, mais écoute, pour nous les civils, ça nous inquiète pas. Mais comme ce sont des troupes des Nations Unies qui vont assurer la protection des personnes et de leurs biens, et si la mise en œuvre est établie, c'est-à-dire réaliser, nous n'aurons plus de problème.
En guise de conclusion, honorable, comment vous entrevoyez la vie politique en RDC après le vote de cette résolution, brièvement?
J'ai toujours dit que le problème que nous avons, ce monsieur Kabila, il est le problème et la solution. Et je crois qu'il évolue beaucoup plus du côté problème que des solutions. Et c'est très dommage pour nous.
Merci.
Nous pensons que le peuple congolais ne se laissera pas faire.
Merci. Maître Achille Kabongo, vous également, comment vous entrevoyez la suite du processus politique en RDC après cette résolution?
Non, je demande tout simplement aux autorités congolaises de bien vouloir respecter l'accord. Parce que là, à l'Institut congolais d'études d'analyse stratégique, nous nous trouvons devant un trou béant. Si l'on ne respecte pas l'accord de la Saint-Sylvestre, qui aura-t-il après? Lorsque la MONUSCO aura fait la radioscopie au 30 septembre, ça pose beaucoup la problématique. Et je suis terrain en disant aussi merci à la France, à M. François Delattre, qui s'est beaucoup battu pour qu'il y ait une réduction minime des effectifs de la MONUSCO, qui ne change pratiquement pas. Les 16 000 sont restés pratiquement constants. Mais Madame l'ambassadrice est rentrée quand même à Washington avec une coupe de 3500 sur les effectifs et un budget allégé légèrement.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus politique après cette résolution?
Ça ne sera pas la fin du monde, monsieur Alain. Moi, ce que je pourrais dire au Conseil de sécurité, c'est de pouvoir demander à ce qu'on réduise les effectifs de la MONUSCO pour que le peu d'effectifs ait une mission claire. Deux, il faudrait qu'on accompagne le gouvernement à former et l'armée et la police. Trois, il faudrait qu'on recherche les moyens financiers pour appuyer le processus électoral pour voir la bonne ou la mauvaise voie. Mais
merci,
je suis confiant que les Congolais seront toujours capables à déplacer même les montagnes pour que le pays ne puisse pas éclater.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à l'équipe rédactionnelle composée de Guy Maté, Kéline Kouté, Berry Franklin, Luchaka, sous la supervision de Pélequipe et Lamondo, mise en onde, Sylvain Matundu, présentation et coordination, Alain Roumouchige. Au revoir. Thank you.